Elisabeth Bost, vous êtes à votre tour auteure d'un ouvrage qui s'appelle
« Aux entrepreneurs associés ».
Quelle est la différence entre votre livre et l'économie sociale et solidaire ?
C'est pas une différence, je crois que ce livre émane d'une activité qui, de fait, est dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est un petit peu une action innovante qu'on mène depuis 15 ans, mais qui malheureusement est encore assez confidentielle.
Ouvrons votre livre.
Ce livre aux entrepreneurs associés, je l'ai construit en trois parties.
Un peu comme une thèse, donc trois parties.
C'est cela. D'abord, si on reprend le titre, j'ai volontairement intitulé « Aux entrepreneurs associés » et non pas « Entrepreneurs associés » parce que toutes les personnes qui créent une activité ne sont pas forcément des entrepreneurs au sens classique, voire libéral du terme. Mais tout le monde est entreprenant et peut réussir dans le développement d'une activité pour peu que les conditions soient autres que celles qui sont imposées aujourd'hui, c'est-à-dire l'entrepreneuriat individuel, l'auto-entrepreneuriat, où on se retrouve un peu seul, où on doit acquérir des métiers liés à la vente, à la gestion, etc., donc qui n'ont rien à voir avec le savoir-faire initial, et un petit peu acculé à faire du résultat, non seulement pour avoir des revenus à peu près décents, mais aussi, et ça nous est très cher, pour financer une couverture sociale. Tout seul, on ne peut pas à la fois acquérir des revenus et financer sa propre couverture sociale. Donc, c'est dans ce souci-là, dans cet esprit-là, qu'on a créé une forme d'entreprise qui permet à la fois de créer son emploi et qui, collectivement, dans un esprit de mutualisation, voire de mutuelle, on parle plus volontiers aujourd'hui, notamment avec Copanam, qui est la coopérative d'activité et d'emploi dans la région parisienne, qui est la plus importante, d'une société mutuelle de travail.
Comment est-ce que ça marche? Alors, l'entreprenant rejoint la coopérative? Comment tout ça s'articule?
Alors, le livre explique exactement comment ça fonctionne et pour que ce soit un peu plus vivant et pas un peu lassant à lire, repose sur les témoignages de personnes qui sont dans ces coopératives depuis longtemps, pas longtemps, qui arrivent, pourquoi elles y viennent, pourquoi elles restent. Et on explique dans cette première partie comment ça fonctionne. Quel statut ont ces personnes? Celui de salarié, voire d'associé, puisqu'il s'agit d'une SCOP. Et leur proposer, justement, d'appartenir à cette entreprise et de la partager avec ceux qui sont en train de la construire. Donc, de co-construire une entreprise dans laquelle ils vont à la fois créer leur emploi, s'assurer un parcours professionnel et aussi dégager des revenus qui vont leur permettre de retrouver cette protection sociale dont ils bénéficiaient quand ils étaient salariés dans une entreprise. Donc, notre préoccupation, c'est de remettre du droit sociale et de la couverture sociale là où il n'y en a plus.
Ça veut dire que l'entreprenant rejoint la coopérative forcément l'accepte ou...
Oui, l'entreprenant, en principe, une personne qui est demandeur d'emploi, à qui on dit depuis des années, vous ne trouvez pas d'emploi, créez-le, devenez chef d'entreprise, devenez auto-entrepreneur, vous verrez, c'est facile, etc. Donc, c'est à partir de ce constat-là qu'on a imaginé cette démarche-là de coopérative d'activité et d'emploi, c'est-à-dire qu'on a imposé aux personnes qui étaient sur le marché du travail de créer leur propre activité individuellement. Comme si c'était un peu la panacée de devenir son propre chef d'entreprise.
C'est plutôt la face nord, en fait, hein, de l'emploi.
Voilà, c'est ça, exactement. Et aussi, on mélange un peu le fait que quand on dit « ben oui, ça me va bien, je vais devenir mon propre patron ».
Débrouillez-vous, quoi.
Voilà. Débrouillez-vous. Et donc, devenir son propre patron et ramer pour avoir un chiffre d'affaires qui tarde à venir, voire qui ne vient pas du tout, ça n'a absolument aucun sens. On n'est sûrement pas, justement, autonome. Et dans nos coopératives d'activité et d'emploi, bien sûr, la règle d'or, c'est de préserver cette autonomie et de permettre aux personnes d'avoir un parcours professionnel à la fois qui leur convient, qui leur permet d'acquérir la rémunération dont ils ont besoin pour vivre décemment. Alors, un des intérêts que trouvent ces personnes dans les coopératives, c'est qu'elles sont à même d'organiser leur journée, leur travail comme elles le souhaitent. Et donc, elles ne calent pas forcément le développement de leur activité sur des revenus, mais plutôt sur le fait d'avoir du temps libre. Ils vont fixer, par exemple, un niveau de revenu qui leur est nécessaire pour vivre correctement, mais aussi qui leur laisse le temps de vivre autre chose, d'avoir le temps d'aller chercher ses enfants à l'école, d'avoir le temps de s'en occuper, d'avoir le temps, voilà. Et dans le temps, peut-être, d'avoir des activités professionnelles peut-être un petit peu plus importantes, et puis à d'autres moments de la vie, de se permettre, etc. Donc c'est tout ça, et je dis tout ça parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, l'entreprise n'est pas orientée vers uniquement créer de la richesse et du profit pour les personnes qui ont investi, on va dire, ce sont pas des entreprises de capitaux ou des entreprises financières, ce sont des entreprises de personnes.
À ce moment-là, on vous voit venir, vous mettez plutôt la femme encore que l'homme au centre.
Non, pas forcément. Alors, il se trouve qu'il y a davantage de femmes dans nos coopératives d'activité que d'hommes, mais bon, il y a aussi pas mal d'hommes qui sont ravis de pouvoir aussi organiser leur temps comme ils l'entendent.
Si on prend une journée, par exemple, lundi, la personne qui se dit « je suis auto-entrepreneur », c'est un peu difficile parce que d'abord je suis seule, donc mentalement c'est pas facile, faut que je fasse absolument tout. Elle prend la décision de rejoindre la coopérative. La coopérative ouais. fait quoi et alors, reçoit quoi aussi?
Oui, alors bien sûr, notre première préoccupation, ça a été de mutualiser des services qui permettent de laisser à la personne tout le temps nécessaire pour produire et vendre. Ça veut dire quoi? La première chose, c'est qu'on a créé un espace juridique partagé en proposant aux personnes d'avoir un numéro d'immatriculation qu'on partage. Chacune d'entre elles ne prend pas le risque juridique de la création avant de savoir si ça va marcher. Et c'est excessivement important. Pourquoi dire aux personnes qu'elles sont obligées de prendre un risque et puis après, qui ramasse les morceaux voilà. Donc, on a commencé par partager ça et puis on a partagé aussi tout ce qui tourne autour de la gestion comptable, administrative, etc. On m'a dit souvent, oui, mais bon, bah, alors vous les assistez parce qu'ils ne font pas tout, ils ne font pas la comptabilité, ils font pas...
Quand on est salarié, non plus.
Non plus, voilà. Et quand on est patron avec des moyens, non plus. Ce n'est pas un système d'assistanat, bien loin de là, c'est un système d'organisation. On s'organise collectivement pour mutualiser ce service qu'est la comptabilité, pour que les gens soient déchargés justement de, il faut déclarer la TVA, il faut déclarer les charges sociales, il faut, etc. Tout ça. Donc, il suffit quand même à l'entrepreneur d'aller chercher le chiffre d'affaires qui va lui être nécessaire pour financer à la fois son salaire et la couverture sociale qui va avec. Quand je dis couverture sociale, c'est les charges sociales patronales et salariales, pas seulement les charges salariales. Dans nos coopératives d'activité, ces personnes sont à la fois leur propre employeur économiquement et ils sont salariés juridiquement de la coopérative.
Est-ce que ça peut toucher n'importe quel secteur d'activité? On peut à la fois tricoter, vendre des pommes de terre, tout?
Les scopes, c'est des branches, c'est des scopes de métier. Nous, la particularité des coopératives d'activité d'emploi, c'est qu'on est multi-activité. On accueille toutes les activités qu'il nous est possible d'accueillir. Alors, on a quelques restrictions liées à des dispositions juridiques. Par exemple, on ne peut pas accueillir des activités qui sont soumises dans le cadre d'un conseil de l'ordre. On ne peut pas accueillir un médecin, un avocat. Ce n'est pas compatible. Donc, il y a ça. Il y a aussi les secteurs d'activité, mais ils ne sont pas très nombreux. Hein. On a beaucoup parlé du service à la personne. Service à la personne, pour avoir l'agrément, on ne doit faire que ça. Donc, on a été amené, ce qui n'est quand même pas notre démarche d'origine, à créer des coopératives d'activité spéciales service à la personne. De la même manière, on a créé aussi des coopératives d'activité spéciales bâtiment, parce que le bâtiment est lié à des systèmes assurantiels extrêmement onéreux, des garanties décennales et aussi un mode de fonctionnement vis-à-vis des caisses de congés payés. Donc, c'était pas facile de gérer ça à l'intérieur d'une coopérative d'activité. Mais comme on avait beaucoup de demandes dans ce secteur-là, on a quelques coopératives d'activité et d'emploi spéciales bâtiment. Mais le principe de base, il est celui de la multi-activité parce que ça nous permet aussi de mutualiser beaucoup en termes de compétences. Et c'est précieux, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que toutes ces compétences, au Paname aujourd'hui, c'est près de 500 personnes. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, c'est autour de 5 millions d'euros. Il y a une partie de ces 5 millions d'euros, 10% qui vont au fonctionnement global et qui vont aussi toujours sur le même principe mutuel, mutualisation de la trésorerie, par exemple, d'une partie. Donc, on essaye aussi, par ce biais-là, de créer nos propres outils financiers qui vont nous permettre un développement économique. Ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le bouquin, c'est qu'on ne fait pas du social, on fait de l'économie, mais de l'économie sociale, c'est-à-dire de la vraie économie avec des vrais profits, des vrais bénéfices. Mais ces bénéfices-là, ils sont pour entretenir un outil de travail et ils sont déployés dans l'intérêt des personnes qui font tout tourner cette entreprise et non pas pour les personnes qui ont mis les capitaux. Voilà.
Alors, il y a l'entrepreneuriat social. Hein. Quelle est la différence entre entrepreneur, entrepreneuriat social? Est-ce que vous avez des liens?
Alors, moi, j'ai entendu souvent, le discours ambiant, on l'entend bien, hein, si on vous dit, vous n'avez pas d'emploi, il faut le créer, il suffit d'être courageux, d'avoir un savoir-faire.
Il suffit de trouver un verre d'eau dans le désert, débrouillez-vous.
C'est ça. On dit aux personnes, normalement, vous devriez y arriver. C'est induit, si vous n'y arrivez pas, vous êtes un peu nul. C'est que vous n'êtes pas levé assez tôt le matin, c'est que vous n'êtes pas assez dynamique. On vit vraiment quand on est entrepreneur au sens classique du terme et qu'on ne réussit pas, on vit un dépôt de bilan comme un échec, mais cuisant. Et donc, moi, je fais une très grande différence entre entrepreneur et entreprenant. Et quand on me disait que dans les coopératives d'activité et d'emploi, ce n'étaient pas de vrais entrepreneurs, parce qu'ils ne prenaient pas leur risque, quelle est la nécessité de prendre des risques et d'aller au casse-pipe ?
Pour le plaisir, non, ce n'est pas indispensable.
Voilà, ce n'est pas indispensable, à mon sens. Par contre, si les gens ne sont pas entrepreneurs au sens classique du terme, ils sont entreprenants. Et c'est pour ça que ça réussit et c'est pour ça qu'ils développent des activités. Et qu'ils soient débarrassés de tout ce stress lié à la gestion parce qu'ils ne savent pas faire, parce que ce n'est pas leur métier, c'est pas ce qu'ils ont appris.
On ne peut pas être au four et au moulin.
Exactement. Et donc, nous, on s'est organisé pour que les personnes entreprenantes puissent à la fois devenir salariés, puis associés, et gérer ensemble et partager une entreprise qui est la leur, pour que cet outil-là puisse être transmis. Et comme le dit Stéphane Veillère, qui est gérant de Copenhague, il parle d'usufruit et non pas de propriété. On n'est pas propriétaire de cette entreprise, on l'utilise le temps du travail.
Vous-même, quel est un petit peu votre parcours pour être arrivé ainsi à vous intéresser aux coopératives ?
Mon parcours, alors curieusement, parce que je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs, je me suis toujours intéressée à la création d'entreprises, la création d'activités.
Et après ça, on vous traitera de douce rêveuse, pourtant, femme, l'entrepreneuriat, ça ne marche pas forcément ensemble dans les stéréotypes en tous les cas.
Oui, mais j'ai toujours été sensibilisée à cette démarche-là, mais au fait qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Alors, quand on parle de mon parcours, c'est vrai que j'ai un parcours, j'ai une formation plutôt comptable, économique. J'ai aussi un parcours politique.
Où ça ?
J'ai été à une époque députée suppléante et assistante parlementaire. Dans ce cadre-là, j'ai accompagné des reprises d'entreprises par les salariés. Dans les années 80, il y avait toute une activité autour de la reprise d'entreprise par les salariés et plus précisément sous forme de SCOP.
Il y avait des entreprises à l'époque symboliques dont on se souvient ?
En ce qui me concerne, j'ai accompagné notamment un projet, je me rappelle, d'entreprise métallurgique d'une trentaine de personnes, dont je parle d'ailleurs aussi dans le bouquin.
Le cas, par exemple, de Lip, qui avait été extrêmement emblématique en France, des salariés qui ne voulaient pas que ça ferme.
Oui, c'est ça, exactement. Bien sûr, c'est vraiment, j'ai découvert le fonctionnement coopératif et ça ne m'a plus lâché depuis ces années 80 où j'ai accompagné la reprise d'entreprise par les salariés sous cette forme-là. Je suis originaire de Saint-Étienne, donc...
Manufacture.
Voilà, exactement. Et donc, avec tout, justement, les dysfonctionnements, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est les personnes qui gèrent. Quand on parle du mouvement coopératif, il y a un mode de fonctionnement, des règles, des valeurs. Comme le chèque déjeuner, qui sont des superbes coopératives. Des expériences de ce type montrent bien que ce n'est pas parce que c'est des SCOP qu'elles réussissent moins économiquement. Et pour autant, c'est une coopérative qui respecte en tout point le mode de fonctionnement coopératif. Les personnes rentrent dans chèque déjeuner, ont un parcours professionnel où ils ont la possibilité de... Et même, ils sont encouragés à de la promotion, de la formation, etc.
Oui, ce n'est pas l'entrepreneuriat au rabais.
La part travail, ça représente quelque chose, c'est-à-dire chacun a sur les bénéfices sa part travail. Et ça, je le souligne chaque fois, la part travail, c'est un pourcentage, normalement, qui est la répartition donc, d'une part du bénéfice, qui est calculé soit sur les rémunérations, soit sur le temps de travail. Le chèque déjeuner, c'est sur le temps de travail. Le PDG n'a pas une prime et un intéressement supérieur à la dernière personne qui est rentrée. S'ils ont fait un temps complet, ils ont la même rémunération.
Donc les entreprises, vous aimez, le fait d'entreprendre, vous aimez. Dans le fait d'entreprendre, qu'est-ce qui pourrait être réformé ?
C'est la logique. Oui, quand on parle de SCOP, souvent les personnes ne savent pas ce que c'est qu'une SCOP. Une SCOP, c'est une SRL ou une SA, auxquelles on ajoute les règles de fonctionnement coopératif. Et les règles de fonctionnement coopératif modifient complètement la logique d'une SARL ou d'une SA classique.
On ne perd pas le goût d'entreprendre.
Ah, on ne perd pas du tout le goût d'entreprendre. Justement, au sens où je disais tout à l'heure, on est entreprenant. Moi, depuis 15 ans, je vois les entrepreneurs dans ces coopératives. Souvent, on m'a dit, ça ne marchera jamais parce que les gens sont trop individualistes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ils sont très preneurs, justement, de fonctionnement collectif où ils puissent échanger.
Ça devient français, ça, ou c'est français ? Ça peut être français, ça, la solidarité, le fait de travailler avec les autres. On se méprend sur le profil type du français ?
Complètement. Peut-être qu'il y a quelques personnes, parce qu'elles ont peut-être des difficultés personnelles.
Ça n'a rien à voir avec la baguette et le béret, l'individualisme à la française, c'est pas tout à fait juste.
Non, c'est pas tout à fait juste. La plus grande satisfaction qu'on a dans ces coopératives, c'est précisément de côtoyer un tas de personnes, d'avoir à échanger, et tout le monde est content de pouvoir échanger, de bénéficier des compétences des uns et des autres. Et le système mutuel est un système français, ça n'existe nulle part ailleurs. Mon Dieu, il ne faudrait pas le perdre. C'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement les activités sont chaotiques, il faut faire, faut se former, s'auto-former, continuer de se former, mais aussi on est amené parfois à changer de métier. Et ça, si ça passe par un dépôt de bilan parce que l'entreprise, etc., c'est extrêmement difficile de remonter la pente. Dans des entreprises comme les nôtres, eh bien, il y a une sorte de sas de sécurité. On a un petit creux de vague ou un grand creux de vague. C'est moins difficile de dire, bon, on va s'arranger. Pendant quelques temps, bon, on va avoir des revenus un peu moins, mais voilà, on va ensemble voir comment on peut remonter la pente. Il y a d'autres activités économiques qui ne vont plus trouver de marché. À ce moment-là, ben, on imagine de changer carrément de métier. Mais ça, justement, dans la mesure du possible, il faut qu'on le prévoie.
Dans une COP, par exemple, les gens peuvent échanger, voire anticiper, plutôt que de réfléchir dans son coin ou plutôt que de faire peur.
Le plus apprécié dans ces coopératives-là, c'est qu'on a non seulement des ateliers d'échange de compétences, etc., mais aussi des rencontres conviviales, au moins une fois par mois. Tous les entrepreneurs sont appelés à se rencontrer. Et à ce moment-là, c'est extrêmement important de se rendre compte que même si on a des difficultés, on n'est pas seul. Si on veut que les choses changent un peu au niveau du chômage, si on veut que toutes ces personnes qui sont de plus en plus sur le bord du chemin, le fossé qui se creuse entre ceux qui sont extrêmement riches et ceux qui sont plus que pauvres, en France on y vient, on parle des pays du Maghreb où je vais assez souvent, mais en France ça se détériore à la vitesse grand V, et ça se détériore parce qu'il n'y a pas de répartition de cette richesse. C'est quand même ahurissant de voir qu'aujourd'hui, en France, comme dans le monde d'ailleurs, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a une richesse phénoménale et qui n'est pas partagée. Et ça tient bien au mode de fonctionnement, non seulement économique, d'organisation et politique, d'apprendre. Le fait de décider qu'on va s'occuper des personnes plutôt que de s'occuper des capitaux et de s'occuper de faire que les gens qui sont déjà extrêmement riches continuent d'être riches, et non seulement d'être riches, mais de continuer d'être encore plus riches.
C'est une maladie, ça.
Oui, c'est une maladie. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ça leur apporte beaucoup de bonheur, parce que passer un certain montant de revenus...
Ils sont dans les rendements décroissants, on va les prévenir, voilà, parce qu'ils n'en savent rien.
Très souvent, quand j'entends ces sommes phénoménales dont ils bénéficient, je me dis, mais ils en font quoi ?
Ils n'en font rien, c'est la cassette du Picsou.
Voilà, ça les préserve de quoi ? Passer certains montants, ça devient même des fois pas audible, et de plus en plus. Avant, on parlait de personnes riches, etc., mais il me semble qu'on n'entendait pas des montants aussi faramineux. Des personnes qui partent avec leur parachute doré, là, qui se montent à des sommes, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils en font ? Voilà.
On ira leur demander, peut-être, si on arrive à les joindre. Elisabeth Bost, il y a combien de zéros à votre livre pour l'acheter ?
Oh, il n'y a pas de... c'est 16 euros, donc c'est un prix, je pense, tout à fait accessible.
Où est-ce qu'on le trouve ? Parce que les éditions du Repas ont beaucoup de chance, ils sont à Valence, ils ne sont pas sous le crachin parisien.
Voilà, alors on le trouve, alors s'il y a un site aux entrepreneurs associés, et on peut l'acheter en ligne. Il y a deux librairies dans lesquelles ils sont à Paris.
Dites des noms, allez.
La Friche, qui est dans le 11e, et puis aussi dans le 11e, Quilombo. Voilà, donc deux librairies où ils ont pris mes bouquins en dépôt.
Et comme on dit, c'est pas une dépense, c'est un investissement, parce qu'après ça, on se sent moins seul, et puis on est un peu plus outillé.